Vous écoutez IDFM, il est 21h.
Tous ensemble présente Focus. Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM.
98 FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Focus, l'émission qui interroge les parcours, partage les univers. Comment est-ce que ça va l'équipe?
Ça va et toi?
Au top, hein, la forme.
Là, je viens d'arriver, j'ai couru pour arriver à l'heure. Alors, pour
l'émission. T'étais où comme ça?
Ah là là, si on te demande, tu dis que tu sais pas.
Oh, l'ancienne, la scène de film.
La scène de film, à l'ancienne. Ça va ou quoi, Mélik?
Au top, hein, et toi?
Ouais, ça va très bien, très bien.
Il y a Farah avec nous.
Et toi, Farah, bien ou quoi?
Moi, toujours.
Tu sors d'où là?
De
Baïdou.
Mila, comme on l'appelle dans...
Ça y est, Mélik, ça y est, ciao.
Dans le milieu.
Y a voilà, pas... j'aime bien.
Coupe tout.
J'aime bien. Ouais,
Jamal, il a la ref. Il y a Baba avec nous, comment tu vas, Baba? Bien. Jamal aussi.
Jamal classique.
Alhamdoulilah. Alors avec nous aujourd'hui, on a qui? On a Abi.
Abi.
Salut à tous.
Tu vas bien?
Ça va super, hein. Merci de me recevoir. C'est
bon, cool. On est très heureux de t'accueillir. Hein.
On est content.
Tu le trouves comment, notre plaisir. Petit studio que t'as déjà vu?
J'aime beaucoup.
À une de nos émissions.
Bah ouais, là, j'étais en mode spectatrice autre fois, mais là,
dans les backstage.
Là, ça y est, là, c'est
je suis vraiment sur le terrain, je kiffe encore plus.
Là, c'est toi, là. C'est ton moment. C'est ton heure de... Pas de gloire, parce qu'on sait que t'es quelqu'un de talentueuse et t'as déjà touché la gloire un petit peu.
C'est une belle transition. T'es humoriste.
C'est ça.
T'as seulement 21 ans et tu fais déjà le tour des clubs parisiens.
Exactement.
Et au-delà de ça, bah, t'as créé ton propre événement, ton propre comédie club.
Ouais.
En ce moment, t'écris ton spectacle.
Ouais.
T'as fait la première partie de grands humoristes. Tu vas nous en parler aussi.
À fond.
On est ravis de t'accueillir pour ça. T'es la deuxième humoriste qu'on reçoit.
Exactement.
On a eu, Monsieur Abder. Abder.
Mister Abder.
Ouais, exactement.
Je sais pas si tu connais, mais Mister Abder.
Si,
qui
si,
tourne
il m'en
aussi
a parlé
un peu,
ouais. L'autre fois et tout. Ouais, okay. J'ai vu un peu. Ouais.
Et moi, j'ai vu un peu. Je suis parti voir un peu ce que tu faisais. C'est pas mal. C'est pour ça que t'es là aujourd'hui.
Bah, franchement, c'est normal, quoi.
C'est bien.
Écoute,
nickel.
On s'écoute à un premier petit morceau choisi par Jamal. Et on revient à toi tout de suite.
Lourd.
Yeah. Todos están pendientes a ti. Pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más. Porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías.
Mi respirar, yeah. Contigo veo todo como en espiral, yeah. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adelal. Contigo me sube de lo general, yeah. Te toco y hasta el mundo deja de guiar. A nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar.
Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía.
Que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías. Cuando yo te lo decía. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la Ford y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la Ford y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo.
Vous écoutez Focus sur IDFM, à retrouver tous les vendredis de 21h à 22h. On vient de s'écouter Mia de Bad Bunny et Drake. Aujourd'hui, on est avec Abi. Abi, t'es humoriste, comme je l'ai dit au début. Il y a des gens qui s'organisent, qui payent, qui viennent, qui se déplacent pour te voir, pour que tu les fasses rire. Est-ce que c'est pas la plus belle consécration?
Ouais, mais on n'est pas encore là où je veux être exactement, parce que c'est souvent des comédie clubs. Donc ils viennent pas voir que moi.
Ouais, bien sûr.
Mais ouais, ça fait quand même plaisir, surtout quand tu tues à écrire une vanne, parce qu'en vrai, même quand des fois pour les gens du public les vannes sont pas drôles, ça reste quand même un travail. Ça veut dire que quand tu vois qu'ils rigolent à des vannes sur lesquelles tu t'es tué, tu te dis ah ouais, c'est lourd.
Ok.
Donc ouais.
Et justement, on en parlait aussi. Tu sais, d'être humoriste, de préparer ses vannes, de comment tu travailles tout ça justement. À quel moment tu te dis bon, celle-là c'est bon, je la garde, je sais que ça va marcher, ou pour toi t'es convaincu, tu te dis c'est bon, moi je garde.
C'est au bout de, parce qu'en fait nous on a un processus. D'abord on fait une vanne, on la teste, et le système pour tester il peut durer un mois, parce qu'on va tester une vanne dans 10 comedy clubs, on va la tester 6 fois. Parfois, on joue souvent dans la même soirée 3-4 fois. Donc, okay. On va la tester. Parfois, elle peut prendre. Des fois, elle va pas prendre. Et des fois, c'est un piège, parce qu'elle peut prendre du premier coup et la deuxième fois, elle peut ne pas prendre. Donc, tu penses que c'est le public. En fait, c'est toi. Donc, c'est au fur et à mesure, de plus tu testes, plus la vanne, elle marche. Et plus tu vois, elle marche, bah, plus tu la gardes. Après, soit tu la gardes dans ton spectacle, ou soit ça devient ton sketch sûr, quoi, avec lequel tu tombes partout.
Et avant de la tester sur le public, est-ce que tu la testes
sur tes amis,
ta famille?
Jamais.
Pas du tout.
Jamais.
Jamais. Moi, j'ai trop de mal avec ça. Hein. J'ai trop de mal avec ça parce que, je trouve que quand on est artiste, on a souvent, on a ce côté artiste et le côté personnel. Moi, parce que, enfin, déjà, dans la vie de toujours, je suis déjà super drôle avec mes amis et ma famille, tu vois.
Ah là là.
Donc, c'est sans prétention.
Humblement,
tu vois. Et je me dis que vas-y, même si je suis drôle dans la vie de tous les jours, j'ai pas forcément la même vibe sur scène. Du coup, je teste pas du tout devant eux. C'est ma phobie, ça.
Mais t'as pas la même vibe de là avoir un personnage sur scène, ou c'est juste que tu mets une sorte de masque pour tout simplement t'adapter à ton public et parce que tu sais que t'es en performance?
Bah, je dirais que je suis quand même assez naturelle sur scène. C'est juste que je vais être ouverte sur certains sujets sur scène que dans la vie de tous les jours, j'arriverais pas à en parler avec les miens, par exemple.
On peut savoir quoi?
Moi, dans mon sketch, je parle beaucoup de la transition de jeune ado à jeune femme. Okay. Et c'est des trucs dont, tu vois, j'en parle avec mes parents ou mes frères et sœurs, mais
tu rentres pas dans le...
Ouais, voilà.
Ils comprennent
que voilà, je suis un peu dans le rush, que je comprends pas trop. Ça suffit. Ouais. Mais sur scène, comment je l'explique, je le vis à fond et le public, ça les tue parce qu'ils sont en mode, ah ouais, elle est en train de craquer, là.
Ouais.
Et comment ça se fait que t'es passé d'artiste à vouloir créer carrément ton comedy club? Donc, c'est-à-dire que t'as des artistes, t'as une troupe, entre guillemets, qui te suit. Comment ça se passe?
Une troupe, non, mais après, j'ai une équipe d'amis avec qui j'évolue. J'ai certains potes humoristes avec qui, franchement, j'écris et tout. Après, j'ai pas une troupe, parce qu'en vrai, la plupart des humoristes que j'invite, c'est des humoristes que j'affectionne ou avec qui je fréquente un peu. Mais j'ai pas cette troupe encore, parce que j'ai pas envie de m'approprier.
Tu veux pas dire ouais que c'est
team, voilà.
Ok, j'ai compris.
Moi, pour moi, le comedy club, c'est, enfin, je le considère comme le comedy club le plus chill, parce que voilà, c'est peace et on est en mode vas-y, si t'es bon, bah je te prends. Mais je veux pas que tu m'appartiennes non plus, parce que voilà, être humoriste, c'est dur.
Ouais,
quoi.
Tu peux faire ta vie aussi, tu peux aller faire tes scènes aussi tout seul et tout.
C'est Mais du coup, c'est toi qui démarches les artistes, ou comment ça se passe un petit peu l'envers du décor?
Bah, soit je vais leur demander, soit ils me demandent. Mais généralement, ouais, le milieu du stand-up, on se demande, c'est pas fermé, quoi.
Okay. Ouais. Et moi, j'ai une question aussi par rapport, tu m'en parlais d'écriture, donc là, tu montes ta troupe. Toi, ton processus d'écriture, comment? Il y a des gens qui t'aident à écrire, ou t'écris toute seule? Comment ça se passe, en fait, tout ça?
Alors, j'ai beaucoup écrit seule, j'ai écrit seule pendant des années.
Ouais.
Et au fur et à mesure du temps, plus j'évoluais, plus je me disais que ce serait bien d'avoir quelqu'un avec qui écrire, parce que, j'avais la formule des vannes. Toujours, j'avais des vannes. Je lançais des punchlines. Mais, en fait, ça faisait des rires, mais j'avais pas l'impression que...
C'était un truc construit.
Voilà, il y avait pas de fil, en fait. Il y avait que des vannes. Et du coup, plus je grandissais, plus je me suis dit, non, en fait, j'ai besoin d'avoir un fil conducteur. Du coup, j'ai rencontré un pote qui s'appelle Wita. D'ailleurs, shout out à lui.
Okay.
Super fort. Si vous n'avez que du bon, vous allez le découvrir. Il est vraiment chaud.
On attend l'invitation.
Que du bon, c'est le nom du comedy club. Okay. Et du coup, en fait, il m'a fait la remarque. Il a dit, t'es chaude, mais le problème, c'est que t'as pas de structure.
Okay.
Tu fais tes vannes, mais il n'y a pas de fil. On ne se souvient pas de toi forcément à la fin, même si tu les as tués. Du coup, avec lui, on a commencé à tout changer. Donc, depuis un an maintenant, mon écriture, elle a totalement changé. Même quand j'ai une vanne, bah, je la développe au maximum, quoi.
Et t'as réussi à t'adapter justement à ce nouveau format? Comment ça s'est passé?
Maintenant, ouais. Au début, c'était très dur parce que j'ai pas d'exemple précis de vanne. Je vous montrerai une vidéo d'un ancien sketch à moi, comme ça vous verrez. Mais ouais, au début, c'était très dur parce que moi, comme je vous ai dit, j'étais très vanne et c'est tout. Maintenant, j'ai la vanne et je développe au max. Maintenant, ouais. Ça y est, je suis
c'est un
à
peu
fond
plus
dedans.
Conté, c'est plus sous forme de, d'histoire.
Exactement.
Tu peux nous faire une petite vanne là? Non, je rigole.
Je te jure, mais c'est ce que je me demandais.
Est-ce que les gens demandent à chaque fois?
Est-ce que les gens de ton entourage, tout ça, t'as vu, sont un peu tristes, tout ça, ils disent ouais, Abby, s'il te plaît, fais-moi rigoler. Peut-être.
Bah, pour le coup, non, parce que comme je disais, je suis assez drôle avec les miens. Ça veut dire que. Enfin, même des fois, moi. En vrai, moi, mes amis, je les fais rire, mais eux, ils me font pas rire. Du coup, je leur dis, dites-moi un truc drôle. Mais c'est toi à la base, la comique. Du coup. Non, j'ai pas besoin de leur faire mes propres vannes, quoi.
D'accord.
Et tout à l'heure, tu disais que sur scène, t'osais parler de choses dont tu n'osais pas parler avec tes proches. Mais tes proches, finalement, tes scènes, j'imagine qu'ils y ont déjà assisté.
Ouais, grave.
Et comment tu l'appréhendes, ce truc-là?
T'as la pression.
Parce qu'eux, ils te connaissent, en fait.
Exactement.
Tu vois.
Ça veut dire, des fois, même, tu dis des choses qui sont pas forcément vraies. Et ils te regardent en mode menteuse. Et c'est relou.
Ou en
parce
mode
que je suis en mode.
Attends, après.
C'est ça, en fait. Je suis en mode, mais laissez-moi vivre, en fait. Je raconte mes blagues, tu vois. Donc, c'est drôle parce que, enfin, moi, par exemple, quand mes frères et sœurs et tout, ils sont venus, ils sont en mode, ah, tu le voyais comme ça, en fait. T'es vraiment dans le rush à fond parce que quand j'explique la crise de, moi, j'appelle ça la crise de la vingtaine. Parce que j'ai 21 ans et quand j'ai eu 20 ans, c'était chaud. Enfin, tout était devenu chelou pour moi.
C'est vrai?
Ouais, genre, je trouve que c'est passé trop vite. Aux yeux de mes parents, j'étais plus un bébé. Et je l'ai trop mal vécu. Du coup, et le fait qu'ils m'aient vu parler de ça, ils étaient en mode, ah ouais, ça t'a vraiment affecté à ce point-là et tout.
Parce qu'ils t'ont dit, c'est bon, t'as 20 ans, casse-toi pas, sors de la maison.
Ouais, voilà, genre, ils m'ont vraiment mis dans le truc de, t'es plus un bébé.
Voilà, ça veut dire, maintenant, prends-toi en main.
Exactement. Et moi, j'étais en mode, mais non, en fait.
Je reste, je suis là.
Ouais, en mode, non, je suis bien, moi, ouais,
D'accord. Et justement, comment tu choisis de faire du stand-up?
Comment c'est venu?
Ouais, grave. Toi, t'arrives comme ça, tu vois, une petite meuf de 20 ans. Enfin, je pense que t'as commencé un peu, plus tôt.
Ouais.
Donc, dis-nous un peu comment ça s'est passé, tout ça, tu vois.
Bah, le processus, il est long, hein, parce qu'en vraiment, ma première scène, je l'ai fait à 14 ans. Et en fait, j'ai toujours voulu faire rire les gens. Mais après, le déclic vraiment d'être humoriste, il est arrivé. Ça va être. Franchement, c'est chelou. À chaque fois que je le dis, les gens, ils disent, ah ouais, j'aurais pas imaginé ça. C'est quand. À l'époque de la première saison de Jamel Comedy Club, ma sœur, elle ramène le DVD. Donc moi, je comprends pas, mais je vois des gens qui nous ressemblent un peu parler et faire rire les gens. Je dis, oh, mais je suis très petite, hein. Je suis une 2001, c'est sorti en 2006. C'est-à-dire, je voyais juste les images. En vrai, je comprenais pas. Je voyais juste, ça les faisait rire. Je dis, ah, stylé. Ça passe, les années passent. Et après, je tombe sur Kev Adams. Kev Adams, c'est ma génération, en vrai.
Ouais.
C'est le mec le moins drôle pour nous.
c'est la vérité.
Exactement. Mais moi, je le trouvais... Je trouvais qu'il avait un truc. Je trouvais pas forcément drôle, mais moi je le kiffais parce qu'il avait ce truc où je me dis.
Il a quand même ramené quelque chose de nouveau qu'on n'aime pas. Ouais.
Franchement.
Mais en fait, il a son public, quoi. Et tu sais, il a sa base fan aussi. Tu vois, ça fait un moment qu'il est là, il perdure aussi. C'est vrai bon, après, il faut adhérer à ses vannes, tout ça, tu vois. Mais bon, il en faut pas.
C'est ça. Parce que moi, je trouve qu'il y a l'humour avant et après Kev Adams. La génération Kev Adams, en vrai, elle a joué. Du coup, moi, j'étais dans la génération Kev Adams. Et je disais, ah ouais, il est trop chaud, en fait, parce que je voyais qu'il était jeune.
Ouais,
et je voyais qu'il était grave accroché à son rêve. Il était fan de Jamel, Gad Elmaleh. Et tu vois qu'il a fait un spectacle avec Gad Elmaleh. Et je dis, ah ouais, non, c'est lui. Du coup, en vrai, le mood, il part de lui.
Okay.
Donc, je fais ma première scène et tout le tralala. Et du coup, de mes 14 ans à 17 ans, j'ai fait du stand-up pendant 3 ans dans tous les comédie clubs parisiens.
Ah ouais, quand même, de 14 ans. Mais tu faisais ça toute seule ou il y avait quand même quelqu'un
derrière
toi? Non,
en fait, j'avais un grand à moi qui, lui, était dans les comédie clubs de Paris.
D'accord.
Et en fait, moi, j'avais écrit un sketch... Mais je savais pas ce que ça allait donner. J'avais mon instinct. L'instinct, il est trop fort. Je lui ai dit, j'ai un sketch. Et moi, je m'attendais à rien. Il m'a dit, mais il est trop lourd. Vas-y, il m'a aidé à peaufiner quelques trucs. Ensuite, on est parti. Il m'a ramené au Paname. Et de là, c'est parti de là. Hein. Gros big up à lui. Il s'appelle
Amine. Tu nous as dit tout à l'heure que tu viens du 91, c'est
ça? Exactement, ouais.
Et tes parents, ils en pensaient quoi? Parce que t'étais quand même jeune, 14 ans, jusqu'à Paris, avec quelqu'un du quartier, même si j'imagine qu'ils le connaissent. Mais quand
à
même,
fond, à fond, à fond.
Jeune.
De fou. Franchement, c'est là que tu vois que la confiance des parents, c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, je me dis, vas-y, c'est une sorte d'ami de la famille. Il connaît mes frères, il connaît toute ma famille. Donc, toutes mes scènes, je les faisais avec lui. Et par exemple, même il y avait des scènes que je pouvais pas faire à l'époque parce que j'étais mineure. Du coup, il m'accompagnait ou mes frères et sœurs m'accompagnaient. Après, il y a des moments où lui aussi, ça y est, il a pris son envol. Du coup, on n'était plus trop ensemble. Mais je me souviens que c'était très scolaire. Donc pendant les vacances scolaires, je faisais que des scènes. Et même les programmateurs, ils savaient que c'était que quand, pendant les vacances, j'étais dispo. Donc, ils me donnaient que des créneaux pendant les vacances. C'était, je trouvais ça trop cool. Après, du coup, j'ai décidé d'arrêter à 17 ans parce que j'ai vite compris qu'en fait, il te fallait un public pour pouvoir.
Ouais,
si t'évolues. J'ai vite compris ça. Donc, j'ai commencé les vidéos sur Instagram. Et par chance, ça a pris rapidement.
Ouais.
Et d'ailleurs, bah, c'est avec Baba que j'ai fait ma première vidéo. Il était là sur le tournage de ma première vidéo qu'a pris. Shout out, vraiment.
J'espère qu'on aura les mêmes followers. Hein.
Mais je savais même pas que les scènes des Comedy Club étaient ouvertes à des mineurs.
Et maintenant, l'époque, moi, en 2015, non, il y avait des scènes où c'était mort. Il fallait une autorisation parentale, des trucs à peur.
Ouais, j'ai jamais vu ça, en fait.
Enfin, j'en ai jamais vu, nulle part.
Ouais.
Non, c'était une première, c'était Abby. Hein. C'est ce que je me dis en fait. Est-ce qu'on a connu des humoristes qui ont commencé à 14-15 ans
mais qui faisaient de la musique?
Il y avait Stéphane Bach à l'époque.
Stéphane Bach, ouais. Mais il a disparu des circuits aussi.
Le cinéma, lui, il fait du cinéma. Cinéma maintenant. Ouais.
D'accord.
Et tu as l'air de dire que le passage à l'âge adulte, c'était une période assez particulière pour toi.
Ouais.
Et pourquoi t'as décidé de la retranscrire sur scène? Est-ce que c'est pour relativiser? Est-ce que ça te fait du bien peut-être?
Ouais, moi ça m'a fait du bien de fou. Genre ça m'a vraiment permis d'extérioriser. Parce que vas-y, on est après voilà, c'est pas pour faire un enfin comment on peut dire ça? C'est pas pour faire cliché, mais c'est vrai que c'est compliqué pour nous d'exprimer ce qu'on ressent quand voilà chez nous généralement.
Mais c'est vrai parce que on en parlait la dernière fois, mais c'est culturel en fait.
Exactement.
Tu vois, on a du mal à aller voir nos parents en disant ouais ça, je vais pas bien et tout parce
c'est
que
ça,
peut-être
en fait.
J'ai le cœur brisé par une femme ou un truc, tu vois. Mais c'est vrai en fait,
c'est vrai.
Donc le moyen chez nous de l'extérioriser, c'est soit tu l'écris. Et tu vas commencer à rapper, tu vois.
Exactement, ouais.
Ou soit tu montes sur scène et tu le prends à la dérision, en fait, tu vois.
À fond. Parce que, tu voulais dire quelque chose?
Non. Et en fait, toi, c'est ce processus-là, en fait,
qui
a fait que. C'est qui t'a brisé le cœur? On va aller le voir.
Nobody.
On va aller voir, on va.
Non,
je les ai.
Vous l'avez vécu comment, vous?
T'inquiète, je te dirai en off.
Vous l'avez vécu comment, cette période, vous, Sidi?
La période 2.
Un peu quand tu réalises que tu deviens un adulte et que t'as des responsabilités et
moi je l'ai réalisé très très vite un poteau hein.
11 ans
ah 10 piges j'allais au foot tout seul ça, je prenais le bus je jouais à Pantin j'étais à Aubert les contrôleurs ils me voyaient pas je passais en dessous non mais après tu le réalises après tu vois après c'est les
après
c'est chacun
ça
comment
on
grandit tu vois
nous quand même on était assez autonome tu vois donc ça m'a pas non plus fait un choc ou quoi au caisse. Après je pense c'est aussi ton caractère ta manière d'être par exemple moi et mon frère on n'est pas du tout pareil tu vois ce que je veux dire je pense que je l'ai beaucoup mieux vécu que lui sûrement après lui c'est aussi un garçon tu vois il a plus de poids entre guillemets sur les épaules culturellement parlant etc par rapport aux parents
parce que moi je rejoins un peu Abby moi c'était particulier aussi hein.
Ouais
dans le sens où tu prenais un peu la vie à la rigolade, mais sur tous les plans, l'école ça se passait bien.
Tout se passe bien.
Et du jour au lendemain, je sais pas, tu réfléchis, tu réalises que.
Ta meuf, elle t'a plaqué après, ça y est.
Non, c'est même pas sentimental, c'est plus.
Ça y est, faut prendre des.
Ouais, c'est ça, t'as des vraies responsabilités.
Bientôt devoir travailler, exactement. Prendre un appart, aussi.
Exactement. Et ça joue beaucoup avec la vie professionnelle, j'imagine.
De fou,
tu réalises
de fou.
Qu'il faut trouver un projet, quoi.
Exactement.
Et donc, toi, t'as pas osé justement aller le dire à tes parents, donc t'as dit, ouais, je vais écrire.
Exactement, parce qu'en fait, moi, mes sketchs, ils ont toujours été basés sur moi depuis que j'ai 14 ans. Mais là, j'étais pas dans l'optique de je veux faire rire. J'ai dit, en fait, j'ai besoin de parler. J'ai besoin de parler, et moi, j'écoute beaucoup de sons. Ouais. Ça veut dire, j'ai dit, vas-y, c'est quoi, je vais faire mon son et je vais le faire sur scène. Ça prend pas, au moins, je vais le dire. Et plus je le joue, plus je vois, ça prend. Et moi, j'ai toujours réussi à transformer mes bourbiers en rigolade. Du coup, j'ai dit, vas-y, c'est sûr, là, ça va prendre. Plus ça prend, plus je suis confiante. Et. Carrément, ma mère aujourd'hui regarde mon sketch et elle rigole tout le temps.
D'accord.
Et maintenant, elle commence à me dire les royalties quand ça apprend. Elle dit, tu dis beaucoup trop mon nom, donc quand ça apprend, voilà quoi.
T'es obligé de lui reverser une part.
Bien évidemment.
T'es en train de rigoler sur ma bosse, sur tout Paris là.
De ouf.
Ah, c'est vrai que ça faut.
Faut
oser de parler de son intimité et surtout aux yeux des autres, de son entourage quoi.
Bah ouais, parce qu'en réalité, même si je rigole beaucoup avec les miens, je suis très pudique. Ça veut dire, même il y a des trucs que mes potes ils avaient jamais entendu. Et du coup, la scène, c'est un bon moyen d'extérioriser. C'est pour ça, j'espère que ça va vraiment bien se développer, surtout dans nos banlieues.
Ouais, il faut.
Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de faire du rap pour exprimer ce qu'on ressent. Quoi. Il y a du stand-up.
Non, mais c'est vrai. Je faisais pas que du rap. Hein. Ouais, j'écrivais des textes et tout ça.
Logo Bia Châtelet.
Ben non, parce que moi je trouve, franchement, les meilleurs humoristes ils viennent du quartier.
Ben bien sûr.
Ça
bien
veut
sûr.
Dire, pour moi, je me dis, wesh, mais en fait, les gars, vous êtes trop drôles. Il n'y a pas que le rap, il n'y a pas que être manager ou autre. Vous pouvez être trop fort sur scène.
Et justement, comment tu le vois, toi? Il y a peut-être aussi un truc à créer aussi, tu vois, dans nos banlieues aussi, peut-être que. Développer aussi les. Parce que les comedy clubs sont souvent sur Paris.
Exactement, ouais.
Donc, comment tu te dis. Pourquoi on essaye maintenant de d'ouvrir des petits trucs, des petites scènes ouvertes et tout ça dans les banlieues.
Ouais, ouais.
Mais pourquoi on n'essaye pas de s'organiser? Je sais pas, si t'as ton idée dessus. Qu'est-ce qui manque à ton avis pour que ça arrive dans nos banlieues, que ce soit dans le 91, 93, 95?
Faudrait des humoristes qui nous ressemblent plus. Faudrait qu'il y en ait qui nous ressemblent plus. Parce que généralement, quand ça arrive dans des villes, genre Saint-Denis, ici et tout, c'est souvent une fois dans l'année, le gros théâtre de la ville ou la grosse salle culturelle qui ramène tous les humoristes de Paris. Or que dans nos banlieues, comme j'ai dit, on est trop marrants. Donc on peut déjà faire des petits cours de stand-up, ramener des intervenants. Moi, j'ai déjà fait une intervention à Sevran, dans une école, pour aider des jeunes à écrire. Et du coup, je me dis que si on fait, on va dire, pendant quelques mois, des séances d'écriture, et tous les deux mois, on fait des petits comédie clubs avec la ville. Ça peut être intéressant.
C'est ça.
Et après, au fur et à mesure du temps, on les envoie à Paris. Après, ils reviennent ici. Et ça permet à tous les autres de.
De développer aussi, tu vois.
Mais l'humour, c'est tellement. Enfin, ça concerne tout le monde. Genre là, tu fais du rap, de la musique. Tu fais un concert, t'es éclaté. On dit que t'es éclaté. Tu dis, bon, bah, le rap, c'est pas fait pour moi.
Ouais.
Mais tu fais une scène, on te dit, t'es pas drôle. C'est dur à encaisser.
C'est dur, mais c'est la vie d'artiste, tu vois. Ça veut dire que tu peux pas plaire à tout le monde et que si tu veux faire ça, ben dis-toi bien que tu vas prendre des bides, quoi, tu vois. Comme toi, t'es pas marrant. Tu vois. Donc toi c'est normal, tu vois.
Mais non, mais en fait, je retire mon casque, je vais rentrer chez moi.
Non, mais c'est pour dire justement, toi, Abby, comment tu le vis justement, le pas l'échec, mais le fait que t'as pas ton public qui est toujours réactif, tout ça, comment t'arrives? C'est parce que c'est une force de caractère quand même.
De fou.
Tu vois?
Tu prends ton ego, tu le jettes à la poubelle.
Voilà, c'est ça en fait.
C'est des fois en fait c'est chaud parce que des fois même tes sketchs qui marchent le plus, ceux que t'as testé, comme je vous disais tout à l'heure, ceux que t'as testé à fond, les sûrs, ils peuvent ne pas prendre. Et nous, on a souvent la facilité de donner la responsabilité au public. Ah, ouais, c'est la faute du public, le public, il est
nul.
Genre,
tu te décharges un peu, tu vois.
Exactement. Ouais. Moi, tu te dis, c'est pas moi, c'est le public, moi, je sais ce que je vaux. C'est vrai, mais si le public, il prend pas, c'est de ta faute quelque part. Parce que, en réalité, des fois, il y a des publics qui ont du mal à se détendre parce qu'ils sont pudiques. Ils vont rigoler dans leur tête ou ils vont rigoler en mode. Et nous, on déteste ça.
Ouais, genre, tu rigoles, mais tu le montres pas.
C'est
tu
ça,
vois.
En fait.
Mais justement, ça, c'est à toi de les débloquer aussi.
C'est ça le truc. Après, nous, on est des éponges. Si on sent que le public il est pas là, bah soit on va être grave tendu également, ou soit on va se donner encore plus. Mais des fois t'as l'impression de parler que le public il te suit pas. Mais faut prendre sur soi. Okay. T'avales et.
Et justement, le fait de tu disais tout à l'heure que en gros tu testes les vannes, des fois tu joues 3-4 fois dans la soirée, tu les testes pendant un mois voire plus. Ça, la blague, elle s'essouffle pas à force de la faire, et même le sketch en entier, tu vois.
Ça dépend parce qu'en fait.
Même toi, peut-être que t'as moins d'énergie en
la. Exactement, ouais, de fou. Parce qu'en fait, moi, j'ai dit un mois pour tester, mais j'abuse. Parce qu'une vanne, en vrai, si tu vois qu'elle, des fois, nous, on aime bien dire si au bout de 5-6 fois, elle prend pas, tu la jettes.
Okay.
Mais moi j'aime bien redonner des vannes. Enfin, j'aime bien donner espoir aux vannes. Moi, il y a des vannes auxquelles je les ai essayées, ça prenait pas. Je dis, je te jure, un jour elle va prendre. Et en fait, je modifie l'écriture et je la place autre part. Je dis, voilà, j'en étais sûre. Du coup, la plupart des humoristes, quand leur vanne marche pas, ils la jettent. Mais moi, j'y crois. Du coup, je me dis, vas-y, je la place. Mais c'est vrai que quand tu testes un truc qui prend pas, ça m'est arrivé, oui, de jeter des trucs. Ouais. Vraiment.
Et donc, toi, t'es une femme, justement. Comment elle est la place de la femme dans ce milieu d'humoriste, tu vois? Parce qu'on voit, on parle beaucoup des mecs et tout, on en voit beaucoup. Mais après, en termes de meufs, comment ça se passe? Surtout quand t'es en train de monter, y a beaucoup de femmes qui sont humoristes, tout ça, tu vois?
Ouais, pour le coup, il y a beaucoup de femmes dans le stand-up. Et puis, elles ont chacune leur style. Je trouve qu'on est énormément, il y a beaucoup de. Elles ont chacune leur style. Parce que les gens aiment bien dire oui, les meufs sont pas drôles, patati patata. Mais non, il y a des meufs humoristes qui sont super drôles.
Ouais, non, j'imagine. Parce que là, moi, je pensais aux femmes humoristes, tu vois, qui nous ressemblent un peu. Il y a Nawel Madani. Et encore qu'on voit plus trop en ce moment parce qu'elle est dans le cinéma.
Oui.
Mais il y a qui aussi
Fadili Camara.
Fadili Camara, ouais, aussi, tu vois.
Il y a les Blanche Gardin. Et même en soi, à une époque, je sais que ma maman, elle kiffe les Anne Roumanoff et tout.
Ouais, bah oui. Mais ça, c'est
encore embêté. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. T'avais Florence Foresti, Anne Roumanoff.
Ouais, mais là, je te parle.
C'était des superstars dans le milieu.
Dans le milieu, mais là, je te parle aussi des jeunes meufs issues de la banlieue, dans le stand-up, tu vois.
Ouais, bien sûr.
C'est en fait qui ont percé et qui peuvent remplir des salles.
Ouais, il y en a pas énormément.
Moi
énormément.
Aujourd'hui, je vois là en tête qui nous ressemble, ouais, même en termes de couleurs, je vois Fadili Camara, tu
vois.
Ouais,
qui est celle qui a présenté les flammes aussi, c'est ça.
Ouais, c'est elle.
OK. Et elle, donc c'est elle qui est pour l'instant qui est en.
Pour moi, ouais, c'est elle là, ouais, c'est elle qui nous représente le mieux, c'est la base, quoi.
OK.
Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu me dis si je me trompe, hein, mais qu'il faut avoir plus que de l'humour et du talent pour être humoriste, et qu'il faut limite avoir une petite particularité.
Voilà,
à la Jimo avec sa lenteur, à la Rémi Rabel avec son attitude. Mmh. Est-ce que toi, t'as un truc comme ça qui te démarque?
Les gens, ils me le disent. Les gens, ils me disent que j'ai mon truc à moi. Après, moi, personnellement, je le vois pas. Moi, genre, je me sens, je dirais pas que je me sens spécial non plus. Je sais que j'ai mon truc à moi, mais je sais pas exactement ce que c'est.
Mais c'est
après, c'est à vous de me dire quand vous me verrez sur scène.
Bah ouais, c'est
ça. Ça se construit aussi.
Et c'est ce que j'allais te dire en plus, Mélix. C'est là, t'as donné des gens qui, ça fait longtemps, qui sont quand même dans le stand-up, tout ça. Même si toi, ça fait quand même un peu longtemps que t'es dans le stand-up, tu vois, je pense qu'il y a encore une marge d'évolution et à vraiment trouver ton truc, toi, tu vois.
Exactement. Il y a une marge. Mais justement, comment tu fais? Parce qu'il y a quand même énormément d'humoristes maintenant. Et c'est quand même, je pense, un petit peu plus facile d'accès avec tous les comedy clubs, les scènes ouvertes, et même les réseaux sociaux, etc. Comment on se démarre? Comment on arrive à faire des blagues sur des nouveaux thèmes, des nouveaux? Ça doit être compliqué.
C'est la
quand
créativité,
même.
Moi. C'est pour ça que je respecte grave les humoristes, en fait. Parce que c'est, tu vois, il faut vous rebondissez sur tout, l'actu, tout ça. Ça veut dire que, tu vois.
Et tu te dis, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Des fois, tu prépares ton sketch et comme tu dis, t'es dans un comedy club et je sais pas, il y a une personne qui passe avant toi dans la soirée et qui a à peu près qu'aborde les mêmes sujets, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, à fond, ça peut arriver. Par exemple, moi, je sais que, par exemple, l'autre fois, je parlais du permis et la meuf qui passait après moi, je crois qu'elle est passée après moi. Et le lendemain, on rejouait encore ensemble. Elle a dit, ah ouais, mais demain, je peux pas faire aussi mon sketch sur le permis parce que toi aussi, tu en parles. J'ai dit, mais dans tous les cas, tu le dis à ta façon, je le dis à ma façon.
Ouais,
elle dit, ouais, mais non, et tout. J'ai dit, ouais, mais. Tu vois, moi,
ça,
en vrai.
C'est l'ego.
T'as capté, alors que moi, en vrai, je m'en tape. Mais non, après, moi, franchement, ça, c'est vrai que ouais, mais c'est surtout une question de confiance, en vrai. Hein.
Ouais.
La personne va pas avoir le même sujet, mais toi, tant que tu sais que tu
as confiance en toi et tu te défends ton truc à fond.
Exactement.
Donc c'est l'essentiel.
Si t'y crois, c'est carré, en vrai. C'est trop facile de le dire parce que, voilà, ça paraît grave bateau, mais en vrai, faut juste y croire. Hein.
Non, mais c'est vrai. Et en tout cas, nous, on le voit, tu y crois et c'est très bien. Et
est-ce qu'il y a une... Parce que t'as commencé quand même jeune, mais à quel moment? Parce que c'est une chose, en gros, de savoir que t'es drôle. Et déjà, à 14 ans, c'est dur de savoir qu'on est drôle avec ses amis.
De fou.
On rigole entre nous, mais on n'a pas cette notion de « ouais, je suis drôle ». Mais est-ce que c'est, en gros, c'est quelqu'un qui t'a dit « ouais, tu devrais te lancer de là-dedans » ou t'as regardé le spectacle de quelqu'un et t'as kiffé, tu t'es dit « j'ai envie de faire ça » ou une rencontre en particulier?
Bah, comme je te disais, moi, c'est le Kev Adams. Hein.
Ouais.
Mais
ouais.
Après, j'ai vraiment grandi dans la culture, on va dire, parce que voilà... Mes parents, ils ont toujours écouté beaucoup de musique. On est beaucoup d'artistes dans ma famille.
D'accord.
Et personne n'a jamais fait de l'humour. Mais après, chez nous, on rigole beaucoup. Ouais. On rigole beaucoup. Ça veut dire qu'on est tous gaulerie et...
Tout le monde taille tout le monde.
Exactement. En fait, on a vraiment grandi dans la vanne. Je pense que c'est pour ça qu'aussi la fibre punchline, elle est venue de là dans mes sketchs. Et du coup, bah, ma sœur, elle partait dans beaucoup de comédie club avant. Et j'ai dit, ah ouais, donc il y a moyen et tout de passer. C'est là, du coup, j'ai commencé à contacter le grand de chez moi. Et de là, j'ai dit, vas-y, faut que je le fasse. Parce que moi, j'étais grave galerie avec mes potes, même au collège.
Donc, tu connaissais déjà l'existence au monde
des
comedy clubs. C'est, pas, c'est pas tout
c'est
le monde.
C'est pas tout le monde, ouais, c'est ce que j'allais dire.
Moi, je connaissais pas du tout.
Ouais, non, franchement, grâce à mes frères et sœurs et mes parents, j'ai grave eu une ouverture avec la culture. Du coup, j'étais vraiment à l'affût sur tout, quoi.
Ah, c'est
et tu comptes en faire, bon, c'est peut-être un petit peu tôt pour te projeter, mais tu comptes en faire ta carrière vraiment toute ta vie ou tu te projettes dans autre chose comme le cinéma?
Toute ma vie, non. Moi, j'aimerais bien arriver à un bon niveau, mais après, vraiment, ouvrir la porte à d'autres choses. Par exemple, comme je disais, donner l'accès à des plus jeunes, parce que je sais qu'il y a des gens qui méritent vraiment. Il y a des gens qui méritent vraiment d'avoir des carrières de fou, des jeunes qui peuvent s'en sortir autrement qu'avec le sport, la musique ou quoi.
Je comprends ce que tu veux dire.
Et voilà, faire en sorte que le divertissement en France il soit vraiment bien développé parce que on n'est pas le pays de l'entertainment mais
pas du
ouvrir certaines choses
et il y a du potentiel en soi.
C'est ça en fait, on est super drôle donc il y a plein de choses à faire.
Écoute Abby, on a une petite tradition ici.
C'est ça.
Tu nous as envoyé des morceaux.
Ouais.
On va se mettre un extrait de chaque. On va commencer par le premier et tu vas nous dire pourquoi t'as choisi ce morceau là.
Go.
I can love you.
écoutez Focus sur EDFM, à retrouver tous les vendredis de 21h à 22h. On est avec Abby qui vient de nous proposer un premier morceau.
Yes.
Pourquoi cette musique? Tu peux dire ce que c'est déjà?
C'est Mary J. Blige avec le titre I Can Love You.
Yes.
Je peux donner plus d'infos?
Ouais, vas-y, vas-y.
Sorti en 1997.
Ah ouais, j'allais réviser.
De l'album Share My World.
Aïe, aïe, aïe. Tu sais, quand t'es comme ça, précise. Voilà, je savais. Je savais que notre DJ.
Je vous ai dit, franchement, moi, à la base, hein, si c'était pas l'humour, j'aurais bossé dans le son. Voilà. Ça, c'est clair.
Et tu peux nous dire, justement, elle représente quoi, Mary J. Blige, pour toi?
C'est un modèle, un peu, quand même, hein, parce que, j'aime beaucoup le parcours. C'est une ancienne en vrai, elle a l'âge à mes parents en vrai, mais elle est là depuis longtemps et au fur et à mesure
elle a perduré quand même.
Voilà,
tu vois,
elle a perduré et même son esprit vraiment hip hop et tout. Tu sais, elle aurait pu être un rappeur en fait.
Exactement.
elle est grave Kaira, du coup c'est grave drôle et je kiffe beaucoup ce qu'elle représente et même son côté écorché vif mais tranquille, on va s'en sortir. J'aime beaucoup trop.
Elle s'en est bien sortie, hein, parce que c'est vrai qu'elle revient de loin. Mary J. Blige, de loin.
De fou.
Et est-ce que à la manière d'un boxeur qui monte sur le ring, t'as tes petits sons avant de monter sur scène?
Pas du tout.
Ah ouais, la concentration.
Non, franchement, avant de monter sur scène, j'ai pas de son parce que c'est spécial. Avant de monter sur scène, déjà, t'as un stress, que tu le veuilles ou non, t'as un stress. Même si t'es grave détendu, t'as un mini stress qui vient et j'ai pas besoin de son. Même si j'écoute un son, je vais bouger la tête, mais je vais pas être sur le son.
Ouais.
Après, vu que moi je fais des longs trajets, j'habite loin. Je me fais une big playlist.
Okay.
Et j'écoute un peu de rap dur.
Voilà. Bah écoute, on va passer à du rap. Il est pas dur.
Ouais.
Mais, okay. Morceau incroyable. Ton deuxième choix. Je peux l'envoyer à Jamal.
Je m'épaissis, le lieu rétrécit, je me secoue. Je tape les murs comme un dépressif. Où est l'issue de secours? C'est dur d'ouvrir les yeux, je crois que je suis pété. Un gars en blouse blanche coupe le cordon, j'arrive dans cette douce France, une nuit d'été. Hey, moi je suis pas sorti du ventre de ma mère pour vendre de la merde. Jeune, Renoir introverti, esprit bien trop fertile pour le système scolaire. Avec les collègues, c'est au fond qu'on se collait, là où les cancres et les fouteurs de merde se connaissent.
L'un lave l'autre d'Alpha One. Ce morceau, il est incroyable. Le texte, il est
incroyable. Il est fou. Et moi, j'ai encore. Comment une jeune meuf comme toi, t'écoutes du Alpha One aussi, tu vois? T'as grandi? C'est tes grands frères qui t'ont fait découvrir? Ok, je veux savoir l'histoire. C'est comment?
Moi, c'est mes frères et sœurs, comme je t'ai dit. Hein. Chez moi, tout le monde écoute de la musique. Ça veut dire, mon frère, c'est le premier à avoir amené des CD chez moi. Il avait la grande étagère de CD.
Ouais, je vois.
Du coup, il y avait de tout. Et un jour, je tombe sur 1995, la suite. Fini blague, hein, bah ça,
la suite.
En fait, j'aimais trop la sonorité. Je disais, oh, ça fait à l'ancienne un peu et tout. Et,
c'est vrai qu'ils sont arrivés avec un truc à l'ancienne.
C'est ça, et je m'en en 2015. Pourquoi ils font des trucs d'avant et tout? Je comprenais pas, mais j'aimais trop. Du coup, vu que depuis avant, je suis grave une nostalgique, j'ai commencé à m'intéresser à chaque membre du groupe et tout. Et je tombe sur Alpha One et de là, coup de cœur. Hein. Mes coups de cœur de ce groupe-là, c'était Nekfeu, Alpha One. Et Alpha One, du coup, c'est devenu mon chouchou. Hein.
Bah, ils font partie de ceux qui ont vraiment perduré dans le temps, pour le coup. Alpha
ouais,
One,
ouais,
il
ouais
est
carrément.
Toujours
là, tu vois, il est là, il fait ses trucs et ils ont leur style à eux, tu vois. Et ouais, c'est bien. T'as de dire.
Pour beaucoup, c'est le plus grand lyriciste actuel là, du rap français.
Maintenant, ouais, parce qu'il a beaucoup été sous-coté, lui. Hein.
Ah, ouais. Il est passé par des phases très compliquées. Hein.
C'est vrai, en plus. Hein. Donc j'espère que ça se rétablit pour lui, mais bon, on s'en fait pas. Et c'est vrai, c'est bizarre hein, quand même, mais ta playlist là, on voit bien que...
Et encore, il m'a dit 3 sons, mais j'avais trop de sons, franchement.
Tu sais que c'est fait exprès, ça, on fait exprès, on limite
tout
en fait.
Le monde a du
parce
mal.
Qu'on
tous les invités,
veut que
nous
nos invités, ils se cassent la tête sur les sons, tu vois,
c'est
pour qu'ils se disent...
On va avoir l'essence de...
Bah ouais, musico, j'ai dit, vas-y, là, je vais aller au fond de mon crâne.
Et... Bon, ça va, jusque-là, on valide hein, ce que tu nous as sorti, de toute façon.
Parfait. On passe au dernier.
Exactement.
Fuck that, 8 doobies to the face. Fuck that, 12 bottles in the case. Nigga, fuck that, 2 pills in the halfway. Nigga, fuck that, got a high tolerance. When your age don't exist, man, I swear my nigga tripping off that shit again. Pick him up, then I sit him in cold water. Then I order someone to bring him Vicodin. Hope they take the pain away from the feeling that he feel today. You know when you're part of Section 8 and you feel like no one can relate. Cause you are a loner, marijuana.
Du bon vieux Kendrick Lamar.
Ah, lourd, 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 lourd. Tu m'as fait kiffer là.
C'est excellent ça.
Pourquoi ce troisième et dernier choix du coup?
Parce que Kendrick Lamar, c'est dans la nouvelle génération des humoristes, c'est le premier qui m'a, enfin des humoristes.
Dans la nouvelle génération des rappeurs américains,
c'est le premier qui m'a tapé. Parce que moi, on est, je me souviens de l'image du rap américain que j'avais, c'était vraiment 50 Cent et toute la clique, c'est l'époque des gros pantalons. Je suis resté bloqué longtemps sur ça et j'ai eu la gifle au moment où j'ai vu Kendrick Lamar. J'ai dit, oh,
il arrive vite, ça.
Okay, il met des chemises, des slips.
Exactement,
tout,
tu vois.
Et il avait quand même ce flow à l'ancienne. Comme je dis, moi, je suis grave nostalgique. J'ai dit, ah ouais, mais en plus, il représente bien les anciens. Il est avec Dre et tout.
Mais il apporte quand même un nouveau truc.
Ouais, il a apporté vraiment une nouvelle vibe. Et c'est pour ça qu'il a cartonné, en fait, tu vois.
C'est ça. Et j'ai dit, ah non, lui là, non, c'est trop. Ah, c'est quelqu'un. J'ai trop kiffé.
C'est quelqu'un.
Et pourquoi ce morceau en particulier?
Et ADHD, parce que je crois que c'est le... Alors, le premier que j'ai kiffé, c'était Bitch Don't Kill My Vibe. Mais, si vous connaissez...
Ouais.
Jamanaké, il connaît tous les sons.
Mais le déclic en mode son un peu mélancolique et tout, c'est lui. J'ai dit, ah ouais, trop fort. Genre, je sais que je peux l'écouter dans tous les moments, genre. Or que Bitch Don't Kill My Vibe, c'est vraiment pour bounce et tout, quand t'es en voiture et tout.
En tout cas, T'as le langage de la new generation, là, tu vois.
T'es la West Coast, hein.
c'est cool. Il est jaloux, parce qu'à chaque fois, il veut prononcer des mots.
Je suis jaloux. T'as prononcé le titre, là. J'ai dit, ah ouais, elle a envoyé, quand même.
Elle était à l'aise, fluide.
Elle était à l'aise et fluide, tout ça, tu comprends tout.
On va te citer juste pour lancer les sons, je crois.
Il lui a dit, vas-y, dis le son, t'as choisi.
C'est cool.
Non, merci beaucoup d'avoir fait découvrir ta playlist. Bon, 3 sons, on sait que c'est
la
peu.
La prochaine
fois,
j'espère qu'il y en aura au moins 5.
Ouais.
J'ai trop galéré hier.
Dès que tu reviens pour une émission, t'inquiète, on va faire une spéciale pour toi. 5.
On va faire une spéciale musique.
On en refera une. Que sont-ils devenus?
Ouais, c'est ça.
Bonne idée.
Bah oui, dans quelques années, avec plaisir.
J'espère que t'auras percé. Déjà, là, c'est pas mal. T'es bien parti. Donc, c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas.
Ouais, le marathon.
Les amis, on revient tout de suite après une petite pause musicale.
Exactement. Focus.
Ça began all day to like talk. Animals, they in human form. Body man, nobody like walk. But you must hustle if you want your. If no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Cause my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Standing on my grind.
Focus sur IDFM, à retrouver tous les vendredis de 21h à 22h Merci Jamal pour ce beau petit morceau. Abby, il y a une question qui me taraude. Si tu as dit que j'étais pas drôle, ça me travaille encore.
je te le répète. Hein.
Là, est-ce que, toi, tu te considères comme quelqu'un d'assez drôle dans la vie de tous les jours.
Okay.
Mais est-ce que quelqu'un qui ne l'est pas peut devenir humoriste à force de travail, ou est-ce qu'il faut avoir ce petit truc inné en soi?
Non, tu peux devenir humoriste. Hein.
Ça se travaille. Mais je pense, moi, qu'il faut quand même un petit grain de folie, tu vois.
Ouais, mais crois-moi, t'en as qui sont pas drôles, même en...
Même sur scène.
Voilà. Il y a des
Elle a dit dans toute détente, normal.
Les gens sont clairement pas drôles. Et en fait, je me dis juste, si tu bosses bien, je te jure, tu peux devenir bon.
Ouais. Mais après, t'as, tout à l'heure, tu parlais du public. Ça m'est arrivé de tomber sur des vidéos sur Insta. Je regarde des vidéos ou sur les réseaux sociaux d'humoristes. Je me dis, mais c'est vraiment éclaté. Je vais dans les commentaires, les gens, ils spamment de rire, ils sont vraiment ouais, meilleurs, après... tout ça. Non, comme quoi, c'est vraiment
dingue,
propre
ça
à chacun.
Même, ouais. Ça me dépasse jusqu'à présent.
C'est propre à soi aussi, peut-être, tu vois. C'est, je pense. Hein.
Parce que l'humour, ça se construit avec sa personne,
avec
tu vois,
personne,
ton entourage, ce que t'as vécu.
Ouais, grave. Mais après, selon moi, ça concerne vraiment que moi,
ouais.
Je pense que pour être humoriste, il faut quand même être un minimum écorché. Après, faut pas vivre des trucs de fou non plus, mais
ah ouais.
Faut vivre des choses.
Ah ouais,
faut avoir des choses à raconter. C'est comme un rappeur ou un artiste, bah, une chanteuse ou chanteur.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il faut qu'il ait vécu des choses quand même pour, hein, tu vois. Pour après
obligé,
peut-être les détourner, les faire des morceaux ou faire des sketchs, tu vois. Ouais,
exactement.
Je vois ce que tu veux dire.
Pour moi, je trouve que, enfin, même, hein, moi, je sais qu'il y a un producteur là, il y a pas longtemps, qui a dit à une humoriste, s'il te plaît, reviens dans 6 mois. Parce que t'as pas assez vécu de choses.
Ok.
Un producteur de renom
qui
dit ça, je vous dirai le nom plus tard si vous voulez. Moi-même, c'est là, j'ai dit, ah ok, j'ai capté. Du coup, ça veut dire que s'il lui dit ça, elle, c'est qu'il faut que voilà, tu vives des choses. Pas que tu te fasses écraser non plus, mais
ouais,
voilà.
Mais je vois ce que tu veux dire.
Mais justement, t'as pas peur qu'un jour on te dise ça et que ça te mette tellement un coup que tu te dis, ouais, j'arrête.
Selon moi, c'est pas pour faire la meuf, mais je suis bien. Bon, voilà. Après, voilà, je suis pas la meuf. Ah, j'ai mal. On n'est pas des Mary Jane non plus, mais voilà quoi. Ça
Parce
va,
que,
je trouve que
ouais,
je suis.
D'accord. Et c'est pour ça que t'es arrivé, on va en arriver. Ça veut dire que ce que t'as vécu, t'as réussi justement à le transformer, à le faire passer sur scène, mais pas que. Tu peux nous parler aussi de ta casquette de. Je sais pas comment on peut appeler ça.
Organisatrice,
productrice, tout ça, de ton event. Que
ouais,
du bon.
Ouais, que du bon, ouais. Bah, c'est parti du fait que, bah, à la base, moi, c'est ça aussi. En dehors du scénario, je fais plein d'autres trucs. Ça veut dire que j'ai beaucoup la casquette de gestionnaire, en vrai. Donc, je suis humoriste, mais j'aime pas le truc de, ah, t'es humoriste, donc tu restes à ta place. C'est ça, c'est le truc français.
C'est vrai.
T'es ça, donc tu fais ça. Donc, non, moi, j'aime bien organiser les choses. J'aime bien avoir un peu la main sur les trucs, surtout si c'est moi qui les fais. Du coup, je joue dans beaucoup de plateaux parisiens. Je vois la manière de fonctionner de certaines personnes qui me plaît pas forcément. Okay. Et moi, j'aime pas forcément dépendre des gens aussi. Donc je me dis, mais attends, faut que toi aussi tu crées ton truc. Et n'attends pas d'avoir une grosse somme pour ouvrir un comédie club. Associe-toi avec un lieu qui serait OK avec ta manière de fonctionner. Comme ça, plus t'auras ton lieu, plus tu pourras être que dans ton lieu. Et là, t'arriveras à transformer un temple. Et du coup, je me suis dit, vas-y, bon, bah. Que du bon, en fait, c'est une expression que je dis tout le temps.
Quand
je dis bon anniversaire à quelqu'un, longue vie à toi, que du bon, bonne année, que du bon. Et un jour, je m'associe avec un bar à céréales, typique New York, vraiment la déco New York et tout.
Okay.
Et ils me disent, ok, mais t'as le nom et tout.
T'as cherché comme ça.
Non, mais moi, dans ma bio Insta, carrément, il écrit que du bon, c'est ce que je dis tout le temps. Bah vas-y, on fait que du bon. Je dis, bon, bah ok, go, que du bon. Et de maintenant, bah, c'est devenu une expression. Et même quand je lui dis, oh, tu fais toujours ton placement, je dis non, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, en fait, les gars.
Mais ça sonne bien, c'est.
Ouais, je trouve que c'est cool. Et t'es pas dans un truc de Abby Comedy Club. Parce que, comme je dis, j'aime pas trop m'approprier les choses.
Ouais.
Que
ah ouais,
du bon, ça représente.
La petite balle pour Jamel, là.
Ah, non. Lui, c'est un modèle, on le laisse, ça va. Et je trouve qu'il y a trop de trucs Comedy Club. Nanana Comedy Club.
Ouais, c'est vrai.
T'as raison, faut se
faut arrêter. Or que, voilà, que du bon, ça touche tout le monde. Et...
D'accord. Et donc, toi, tu t'es associé, comment t'as trouvé le Comedy Club?
Et comment t'as commencé à dire, oh, c'est bon, j'ai les épaules, j'ai envie de le faire, c'est maintenant et ce sera pas plus tard?
C'est au moment où j'ai senti que dans mes textes, déjà, j'avais une bonne évolution. Dès que j'ai vu que j'avais au moins 30 minutes de sketch.
Okay.
En fait, dès que t'as 30 minutes, nous, les humoristes, on fait souvent des 30 minutes chacun. On prend une heure dans un lieu, un café théâtre ou une petite salle, et on fait un 30 minutes chacun. Je dis, mais en fait, là, je peux faire ce que je veux. Je suis même prête à presque avoir un spectacle. Donc je dis, vas-y, je peux faire un comedy club. Parce que nous, généralement, dans un comedy club, l'animateur ou l'animatrice fait 10 minutes. Ensuite, il envoie tous les humoristes. À la fin, il refait encore 10 minutes. Enfin, 10 minutes de présentation au début et 10 minutes de sketch. Du coup, je dis, ah, vas-y, c'est bon, j'ai les épaules pour tenir un comedy club. Du coup, j'ai commencé à chercher un lieu, mais moi, je voulais pas forcément un bar ou quelque chose de basique. Parce qu'en vrai, tu te démarques pas. Aujourd'hui, dans toutes les rues de Paris, tu as au moins 5 comedy clubs. Donc, j'ai dit, déjà, on va aller en banlieue. Donc, j'ai trouvé un bar à céréales à Bagneux. Parce qu'il y a un bar à céréales à Paris.
Donc quand tu dis bar à céréales, ouais, c'est
moi
vraiment
je connaissais
des céréales.
Celui de
ouais, céréales, attends, là,
yes. céréales, céréales.
Et là-bas aussi, ils font des.
Bah en fait, c'est
aussi.
Une boutique, il y a que des céréales genre américains et tout. Okay. Ouais. Et en fait, tu payes genre bah t'as ton bol, tu choisis
avec
le
ton lait
tout
et
ça,
tout.
Tu choisis tes céréales et tes toppings. Mais c'est grave cher.
Ah ouais. Et donc toi, tu t'es associé justement. À...
C'est ça, avec la propriétaire du lieu qui s'appelle Millie, gros big up à elle. Elle a un bar à céréales, genre vraiment en fait c'est limite une chambre. De toute façon, je vous montrerai les photos et les vidéos. Elles sont sur l'Insta que du bon, petite dédicace.
Non mais c'est allez checker hein.
Et du coup ouais, j'ai dit ah ouais, à la base c'est un petit bar mais chambre un peu. J'ai dit vas-y, on peut mettre une scène, on peut faire ci. Elle a dit bon bah ok. Elle m'a fait confiance. Moi-même j'avais la vision, comme on dit, j'ai vu avant de voir. Et quand on l'a fait, j'ai dit ah ouais, j'étais pas folle en fait. Donc de là, j'ai dit vas-y. Et là, vu que malheureusement le lieu a fermé, ça veut dire là on a trouvé un nouveau lieu qui est encore dans la même vibe. Là, c'est un restaurant coréen.
D'accord.
Mais vraiment le décor d'une rue coréenne. Donc on a l'impression d'être dans une série, un décor de studio de série quoi.
Et ça
c'est excellent, c'est excellent.
À Ivry-sur-Seine. Enfin, Kremlin Bicêtre, Ivry-sur-Seine.
Ah, on ira faire un tour.
Des éditions annuelles.
C'est ça. Non, là j'essaye d'en faire tous les mois.
Okay. Ah ouais, carrément.
La
en plus.
Prochaine d'ailleurs, c'est le 11 juin. Vous êtes tous invités,
juin.
Les gars. Dimanche 11 juin.
C'est noté. C'est noté.
Et j'ai oublié ma question.
Et tes projets du coup niveau, parce que ok t'as ton comedy club mais tu continues quand même à faire des scènes, des premières parties.
Oui quand même. J'essaie de jouer tous les soirs. Okay. Après c'est un rythme que j'aime pas trop. C'est bizarre.
C'est
de
ça
dire
que j'allais te dire, tous les soirs c'est speed quand même, c'est intense tu vois.
C'est vrai de fou parce que moi j'aime pas trop. Après les humoristes diront que je suis folle mais moi j'ai besoin de prendre du recul sur plein de choses. Genre dès que je teste une vanne, j'aime bien la tester 2-3 jours après. Après c'est bien, tu peux la faire le lendemain aussi mais faut laisser respirer le truc. Du coup, tous les soirs, c'est l'idéal. Mais là, par exemple, là, je suis à ma deuxième scène de la semaine. Et du coup, voilà, j'essaye de pas trop jouer, mais d'avoir un rythme. Parce que quand tu le perds, c'est très, très compliqué.
Et tu parles, t'as parlé de première scène. T'as fait la première scène de gros noms. Est-ce que tu peux
c'est vrai,
parler,
en plus.
Ça
première partie, ouais. Au Casino de Paris, de légende de l'humour ivoirien, Digbe Cravate et Ego Michel. Moi-même, jusqu'à présent, j'ai réalisé.
C'est des
pas.
Quelqu'un, en plus, en Afrique, mais pas que.
C'est une pointure, mondialement parlant.
Ouais, mondialement parlant, tu vois.
Et comment ça s'est fait justement la rencontre? C'est toi qui les as démarchés? C'est eux qui sont tombés sur tes vidéos?
Comment en fait, l'histoire elle est folle. En fait, ils viennent régulièrement à Paris, au Casino de Paris. Je pense qu'ils ont un bon contrat avec eux qui fait qu'ils se produisent régulièrement. Au mois de mars, je vais les voir dans le public. Parce que voilà, moi je suis une fan et j'aime, en tant qu'humoriste, j'aime bien aller voir les spectacles quand même.
C'est
important
bien.
De voir les pointures.
T'es pas chauvin, tu.
Ou alors là, non, moi pour moi c'est trop important de voir comment les autres y font. Et du coup, je vais les voir, je suis dans le public. Et j'ai un pote qui est un humoriste de la Guinée qui s'appelle Oumar Mané, gros big up à lui, qui est dans la troupe. Et il joue également. Du coup, le lendemain, je lui dis, mais j'étais dans le public. Il m'a dit, mais pourquoi tu m'as pas dit? Oh là là, je t'aurais branché pour faire la première partie et tout, nan. Et moi, je dis, ouais, mais tu connais, je suis juste venu chill, tu vois.
T'es venu te détendre aussi.
C'est ça. Et il me dit, tu sais quoi, prochaine fois, tu me dis, je te mets en première partie. Nous, les humoristes, on aime bien parler dans le ventre. Je me dis, c'est que des mots.
Lui aussi, Kouma et Kouma beaucoup.
Voilà, il dit, c'est que des mots. Je dis, t'es mon frère, hein. Si tu peux pas, t'inquiète. Justement, moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, si tu peux m'avoir des places pour me venir m'asseoir.
C'est
cool. Je suis très contente. Il a dit, je te donnerai des places et tu vas faire la première partie.
Okay.
J'ai dit, je te jure, ça va aller.
Ça va aller.
J'ai dit, si tu peux pas, t'inquiète. Il me dit, ma sœur, je me fais pas confiance. Je te fais confiance, go. Du coup, 2 semaines avant, il me dit, il m'envoie un message. Alors, en fait, c'était au mois de mars et 2 semaines avant, l'événement est au mois de mai. Donc, de mars à mai, du coup, on parlait de tout sauf ça. 2 semaines avant l'événement, il me fait pour te dire que voilà, t'es validé pour la première partie. Je suis en mode quoi. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on partait à Reims pour un comedy club avec plein d'humoristes dans la voiture. Du coup, je suis là comme ça. Et je peux pas exprimer ma joie parce que moi-même, je réalise pas. Du coup, je rigole toute seule, mais je peux pas dire aux humoristes parce que voilà, on est tous un peu paro quand même. Ils vont dire, ah, mais comment ça se
comment
fait?
Comment t'as fait?
Je dis, tu sais quoi? Tu dis rien jusqu'au jour où t'as fait. Jusqu'au jour où t'entends que t'as pas fait, voilà.
Ils verront. Ils vont entendre.
Du coup, je suis en mode, quoi? Pendant deux semaines, je suis en mode, ah, je peux rien dire, je peux rien dire et tout. Et j'arrive sur les lieux, et dès que j'arrive, je les vois en train de répéter. En fait, tu sais, il y a l'écran dans la loge qui rend sur la scène. Je les vois répéter, je suis en mode, mais non.
Je vais le faire, tu vois.
En fait, je suis en mode, moi, en fait, juste, comme j'ai dit, ça m'aurait suffi juste d'aller les voir dans le public.
Ouais.
Mais là, genre, c'est après eux, après leur répète, ça, moi, je vais faire mes ballons, je suis en mode, what?
Dinguerie, dinguerie.
C'est pas vrai.
Et qu'on se fasse une idée du truc, c'est combien de places le Casino de Paris?
2200, si je dis pas de bêtises.
Alors qu'habituellement, enfin, ce que tu fais habituellement, c'est beaucoup plus restreint.
Exactement, on est entre 30 et 60, voire 80 max.
Et du coup, comment tu fais ce pas-là? C'est compliqué?
Bah, bizarrement, franchement, et c'est ça que j'ai trouvé très spécial, c'est là que j'ai senti que j'avais assez
de bagages.
C'est
de,
ça. Ouais, tu vois. Quand je suis arrivée, j'avais l'impression. J'avais la même sensation que j'avais quand je suis devant 30 ou 50 personnes et j'ai dit c'est pas normal. Parce qu'en fait, les rires étaient plus forts.
Ouais.
Et la frustration, c'est que moi, les rires, je les voyais pas, je les entendais.
D'accord.
C'était tout noir. Ouais, je voyais les 5 premiers rangs.
Projecteur, tu vois rien.
Voilà, je vois les 5 premiers rangs. Autour, tout est noir et j'entends les rires. Et dans ma tête, j'oublie qu'il y a des gens là-haut.
Ouais, c'est vrai. Donc tu te dis que t'es un petit comité, t'es un petit comédie club.
Ça veut dire, moi, quand je sors, moi, normal, je finis ma scène. Ouais. Je fais le tour de la salle, je repars dans le public et vu que c'est la première partie, les gens rentraient, sortaient, ils me disent. Non, c'était lourd et je vois d'autres gens plein. Je dis, ah ouais, mais c'est vrai que la salle, elle est big en fait.
Ouais.
Parce qu'à la base, tu vois, tu quand c'est 30 compte. Personnes, c'est ça en fait.
C'est même peut-être moins stressant vu que tu vois rien alors que dans les comedy clubs, c'est allumé. Enfin,
exactement. Après, je trouve ça spécial. C'est quand même. Je kiffe beaucoup plus quand je suis en comedy club parce que je vois les gens et je sens les énergies. Tandis que là, les gens, tu les vois pas, mais eux, ils te voient.
Ils te voient et après, c'est. Ils rigolent aussi, quoi.
Ouais, la proximité, c'est. Je pense que ça plaît à beaucoup, beaucoup d'humoristes dans ce milieu-là, dans ce métier-là.
Exactement. C'est plus facile. Coup, après, je me dis, en fait, il faut s'habituer. Parce que là, tu continues pour aller vers les grosses salles.
C'est
donc,
ça.
Les gens, tu ne vas pas les voir. Tu ne vas plus les voir dans le public.
Et justement, un jeune humoriste comme ça, tu dis que tu fais pas mal de scènes. Comment on vit un jeune humoriste? C'est quoi? C'est. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes rémunéré? Est-ce que c'est battle? Est-ce que.
Battle, c'est quoi les battles?
Gratuit,
ah,
tu vois.
Okay.
Est-ce que c'est free?
Ah, non, franchement, il n'y a aucune scène gratuite. Hein. C'est toujours avec du chapeau.
Okay.
Je pense au système du chapeau, vous connaissez. Les gens payent la consommation du lieu. Ensuite, dans le chapeau, ils mettent ce qu'ils veulent pour nous. Et après, nous, on se partage à part égale. Mais il y a certains lieux qui font des cachets.
Okay.
C'est-à-dire que là,
c'est bien.
Là, demain, je peux aller faire une scène, j'aurai la même somme que toi.
Et c'est pour toi, même s'il est éclaté.
Tu vas arriver, tu vas dire bonjour, tu vas prendre la même somme que moi.
Même s'il est éclaté au sol comme ça.
C'est ça.
Bah après, c'est aussi fait pour ça, pour tester ses blagues, pour tester
Et en même temps, les comédie clubs, c'est à la mode aussi, tu vois. Comme tu disais, il y en a pas mal sur
Paris.
C'est une activité, tu vois. C'est-à-dire, tu sors, t'as ton comédie club. Je pense que si, c'est un juste retour, tu vois, de mettre.
Et là, justement, moi, je trouve que vraiment, même cette année, ça a vraiment pris de l'ampleur.
Ouais.
Parce qu'avant, OK, on connaissait, y avait le Paname,
etc. Paname, ouais.
C'était très connu. Mais tu vois, c'était quand même la génération d'après. C'était un peu plus les trentenaires, voire les quarantenaires.
Exact,
j'ai l'impression que depuis TikTok, depuis les influenceurs, etc., c'est devenu une vibe, genre d'aller, venez, on s'ennuie, on sait pas quoi faire, on va au Comedy Club.
Ouais, à fond.
Non, mais c'est cool, c'est bien. En tout cas, moi, j'ai découvert via Baba, tu vois. Donc, c'est pas mal.
Et c'est quoi ta prochaine grosse salle, du coup?
Ah, je peux pas dire.
Tu veux pas.
On verra.
Non, ça, je veux pas dire.
Tu viendras nous faire une exclu.
Je peux juste vous dire, venez le 11 juin. Okay. Que du bon, nouvelle édition, ça va bien se passer. Et voilà, je voulais bien appuyer sur que du bon, sur le fait que c'est pas que de l'humour. En vrai, c'est
un tout, en fait.
Voilà,
tu vois.
C'est un tout. Le but, c'est que ça devienne le noyau de l'entertainment.
Okay.
Que demain, faut pas que les gens soient étonnés s'il n'y ait pas que des humoristes, du coup. Parce que voilà, là, on est en train de développer le merch. On fait des vêtements. Parce qu'en fait, j'ai mis un pull une fois que du bon pour une édition. Du coup, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, ah, moi aussi, je veux mon pull, je veux mon pull. J'ai dit, OK, attendez.
Ah, on voit, nous, on va le mettre aussi. La chaîne YouTube qui repart,
voilà,
tout ça. Donc,
go.
Vas-y.
Ça veut dire, c'est vu que le logo, il passe bien, il est beau gosse. Ça veut dire, ça passe sur un t-shirt, sur une coque, sur plein de trucs. Donc voilà.
Donc, il y a que du bon.
Le
Comedy Club. Que du bon. Entertainment, les merchandising.
C'est ça.
Que du bon. Il y a de la production musicale. Comment ça se passe?
Ah, je vous ai dit, je suis une passionnée de son. Hein. À tout moment, il y a un projet. Après, moi, je chante pas.
D'accord.
Moi, je chante pas. C'est juste, si demain, je peux donner la chance à des artistes doués ou même connus qui veulent faire donner de la force, venez avec plaisir.
Et t'as l'air d'en parler comme un milieu assez solidaire entre vous.
Ouais,
je sais pas si c'est juste une image parce que toi, tu
connais des gens.
Tu côtoies des gens avec qui ça se passe bien. Mais est-ce qu'il y a une sorte de concurrence, j'imagine, je comme pense. Tous les milieux artistiques, tu vois?
C'est juste une image.
Hein. Ah ouais?
Juste une image. Non, non, moi, je le défends comme ça parce que c'est mon état d'esprit. Mais en réalité, c'est très compliqué. C'est compliqué dans le sens où, même les gens avec qui tu parles bien, finalement, tu n'as pas réellement confiance.
Un peu de jalousie.
Bah ouais,
c'est ça, parce qu'au final, il y a ce côté très compétition. Ouais. Aucun on rigole bien, on mange ensemble, on rigole ensemble. Mais viens, on écrit ensemble. Non, en fait.
Mais c'est vrai que c'est marrant parce que c'est pas comme la musique, tu vois.
Même la musique, c'est comme ça.
Mais moins, je trouve, parce que la musique, tu peux te dire, chacun a son public, chacun a sa vibe, son truc. Mais les blagues, c'est autre chose, tu vois. Tu peux dire comment tu juges que toi t'es plus drôle que moi, tu vois ce que
Exactement.
Je veux dire. C'est pas pareil.
Exactement.
Je pense comme dans la musique, elle a un peu la notoriété, les ventes.
C'est ça, et surtout qu'en fait, je trouve que le stand-up, en fait, il y a beaucoup enfin, je connais assez le milieu de la musique et je vois que il y a beaucoup de similitudes. Hein. C'est vraiment pas loin et du coup, je me dis que le stand-up c'est beaucoup plus dur parce que c'est du live.
Ouais, c'est vrai. C'est
quand faut y aller, quoi.
C'est ça.
Si t'as le trac, si ce jour-là t'es fatigué, t'es pas dedans.
C'est obligé.
Pas le problème du public.
Ils s'en foutent,
tu vois, et tu fais ton taf, quoi.
Là, non, c'est lourd, c'est lourd.
Est-ce que ça désacralise l'humour de, est-ce que tu t'en lasses d'en faire ton métier? Est-ce que t'as une autre vision de l'humour, du coup, au quotidien?
Oui et non. Enfin, dans le sens où, il y a des moments où je le vois pas comme un métier. Et il y a des moments où je le vois comme un métier. Mais,
une passion, quoi, quand même, aussi.
Exactement,
avant tout,
j'essaye toujours de maintenir la passion parce que je me dis, waouh.
Sinon, c'est
carrément, je vais vous faire une révélation que j'ai jamais dit.
Écoute, on aime bien ça aussi sur Focus.
On a toujours
en mode, moi, j'ai toujours pris plus de kiff dans les scènes où je prenais pas beaucoup, genre du chapeau.
Ok.
Que les scènes où j'ai pris des gros cachets.
Parce que,
il y a une pression particulière. Je sais pas, j'ai toujours trouvé ça space parce que tu sais que les gens, en fait, c'est limite, ils investissent sur toi.
Ouais.
Et t'es en mode.
T'es obligé. T'es obligé de les faire rire après, tu vois.
Après, je me dis pas, parce qu'à un moment donné, tu sais ce que tu veux se dire, tu dis vas-y, tu vas les faire rire. Mais t'es en mode, je suis payé pour ça, alors que, je sais pas, c'est trop bizarre. Mais, genre, carrément, il y a une humoriste qui m'a dit un truc trop intéressant parce que c'est là que j'ai vu qu'on avait la même vision. Elle me disait que ses amis lui disent, ouais, mais t'es folle d'avoir arrêté ton taf et tout pour faire ça. Et elle dit, ouais, mais dites-vous que je me suis jamais sentie aussi riche que maintenant.
D'accord, parce qu'elle fait ce qu'elle kiffe.
C'est ça, en fait, parce que déjà, tu prends du kiff, tu parles à 30 personnes. Enfin, pour tes parents, c'est un truc de ouf quand même. Tu rentres avec quoi, 50 euros en poche, genre que t'es parti de chez toi à 18h pour rentrer à 1h du mat. Ils vont être en mode, mais ça va pas, toi. T'es en mode, mais t'es taré. T'es en mode, mais tu sais pas que c'est trop bien ce qui m'arrive.
Or,
que demain, tu fais un casino, tu vas prendre 500 balles. Je crache pas dessus, jamais. Mais je vais être en mode. C'est normal, j'ai fait le casino. Ouais. Or que si je fais un comedy club, là où j'ai mis mon âme, j'ai mis tout, parce que pour moi, le casino, enfin, un comedy club, c'est vraiment la salle du temps, c'est là où vraiment je me donne et ça me fait trop plaisir quand ça prend. Je me dis, ah, vas-y, je suis trop contente que ça ait pris là-bas, en fait.
En tout cas, merci à bien. Franchement,
merci,
on a kiffé. C'était que du bon,
vraiment.
Un magnifique mot de fin.
Ouais.
C'est beau ce que tu
dis.
C'est beau ce que tu dis, vraiment.
En tout cas, bravo pour tout. Partout.
Bravo pour ce que tu fais.
Pour ce que tu fais, le côté entrepreneuriat aussi, parce que t'as que 21 ans, je le rappelle.
Ouais. Incroyable.
Tu lances ton comedy club, tu montes sur scène, t'as fait une première partie de casino.
C'est incroyable. J'ai oublié de dire.
Vas-y. C'est ton moment.
Walidia, il m'a invité sur son festival d'humour.
En plus, c'est vrai. On en a pas parlé.
Ouais, c'est parti de là, en fait. Au mois de mars, m'a invité parce qu'il m'avait déjà vu en fait il y a un an sur scène et je savais pas. Okay. Donc c'est bien des fois.
C'est lui qui t'a démarché et tout sur
son équipe.
Ouais,
son équipe. En fait, il y a un an, il m'a vu sur scène et si on aime bien les humoristes, donne tout, on sait pas y a qui dans le public et moi, ce truc-là, j'y crois jamais.
Ouais.
Et c'est quand on s'est vu au festival, il l'a dit, mais en fait, je t'avais vu il y a un an, je suis en mode quoi.
Je t'avais repéré déjà, t'as vu.
Et ce jour-là, j'ai pas trop aimé ma performance et j'ai dit, en fait, tu sais jamais ce que le public ressent.
Ouais.
Parce que lui, il avait bien aimé, du coup, il m'a appelé, ça s'est super bien passé.
Il a vu la flamme.
Ouais, excellent mot de fin. En plus, Walidia, je kiffe beaucoup. Abby, en tout cas, franchement, on te souhaite que du bon.
Merci beaucoup.
Vraiment, vraiment dans tes projets. Et tu reviens quand tu veux. La porte, elle est ouverte. Dès que t'as un projet, boum, boum, c'est parti. On va te libérer parce qu'on sait que tu joues aussi après.
Ouais, je dois aller jouer là. En tout cas, gros big up à vous. Franchement, ça se développe bien.
Ouais, merci.
Espérant que ce sera encore plus fort. Et que Génération a du...
Du souci à faire. Aïe, on arrive. La malle, on arrive.
Voilà.
Merci en tout cas, Abby.
Merci à vous, les gars.
Tous ensemble présente
Focus. Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM.
98 FM.